Tout de suite, là-bas, c'est J'y suis avec Daniel Mermet.
Cher Nicolas, je t'aime tellement, cher Nicolas, toi et ton gouvernement et ta femme et toute ta clique, là, machin. Au moins, il faudrait que je te fasse un cadeau. Je savais pas quoi te faire comme cadeau. Et comme cadeau, j'ai eu l'idée de t'offrir un petit Chipotlet. C'est une bonne idée, non? Non? Un Chipotlet, Nicolas. Tu veux pas un petit Chipotlet?
Salut Daniel, elle est vraiment excellente ton émission d'aujourd'hui. Voir un ferronnier d'Eure-et-Loir fabriquer des godes en acier, ça franchement... Mais j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais ça, je vais me mettre à la recherche de ce grand ferronnier. Et franchement, je suis même pas à la fin de ton émission que déjà je suis morte de rire. Beaucoup vont être outrés, ça je le sais. Mais à tous ceux qui vont être outrés, je leur conseille les cierges. Allez, salut Daniel.
Moi, je viens d'écouter cette émission et je suis étonnée qu'on laisse faire une telle profession. Moi, ça me choque terriblement. Bon, je suis pas de la génération de cette personne qui a des cages et je ne sais quoi, mais c'est scandaleux, c'est dégueulasse tout ça. Et pourquoi le gouvernement n'interdit pas ce genre d'activité? Je suis étonnée qu'on fasse une telle émission. C'est sans intérêt et c'est même choquant, c'est dégueulasse.
Ah là là, quel pied cette émission qui vient de passer. Ah, du haut de mes 72 balais, alors là, j'étais vraiment heureuse. Eh bien, ça nous change de l'histoire de Marie-Antoinette et de Napoléon dont on nous a rabattu les oreilles ces temps-ci, ces derniers jours, où on en avait vraiment marre, où on pensait que vraiment c'était moche, et là c'était trop beau. Eh bien écoutez, continuez, on vous adore quand vous faites des émissions comme ça, et de toute façon on vous adore tout le temps, des émissions les plus sérieuses, les plus dures, avec celles les plus tendres et les plus drôles. Et vive l'amour. Allez, au revoir et bonne journée.
Amis des betteraves du Gâtinais, bonjour. Le repère de Tousson, village de 392 habitants entre Milly-la-Forêt et Malesherbes, vous invite le mardi 13 avril à 20h20 au dernier café du village, La Tête des Trains, où l'on parlera de la résistance et du plateau des Glières en compagnie de Walter Bassan, après la projection du film Walter, retour en résistance. Une soirée en partenariat avec le cinéma Le Vox de Château-Renard et Parasite Productions. Exceptionnellement, on sollicitera une petite participation, modeste mais utile, et il est souhaitable de passer un petit coup de fil car les places sont limitées. Pour nous retrouver, tapotez Tousson sur Internet, et le café La Tête des Trains se trouve place de l'Église à Tousson Sud 77. Bienvenue à tous et bonne journée.
Salut Daniel, je viens de regarder un film de 1996 qui s'appelle Les Virtuoses de Marc Herman, un film qui a été fait au sujet des mineurs qui ont été mis au chômage par milliers pendant le gouvernement de Margaret Thatcher. Pendant le film, il y a un clown qui... C'est un pauvre mineur qui est au chômage et donc pour gagner sa vie, il fait le clown chez les riches. Il fait un petit spectacle devant des enfants. Plutôt BCBG, la famille. Il faut s'imaginer un petit peu la scène. Il vient faire le petit spectacle pour la fête de la moisson. Et le clown, il commence à dire « À vrai dire, je ne sais quasiment rien sur la fête de la moisson. Alors, comment je pourrais remercier Dieu ? Par contre, je connais une histoire plutôt étonnante à ce sujet. Un jour où Dieu créa les hommes dans son atelier, un jeune assistant est arrivé, l'air préoccupé. Il a dit « Hé, Dieu, il nous reste tout un tas de corps en réserve, mais on n'a plus du tout de cerveau, on n'a plus du tout de cœur, on n'a plus qu'une seule corde vocale en stock. » Alors Dieu a répondu « Mais on s'en fout, cousez quand même les morceaux, mettez-leur un beau sourire et faites-les parler par le cul, ces gros nazes. » Et c'est ainsi que Dieu a créé en quelques heures le parti conservateur de Margaret Thatcher.
Moshi, moshi. On rigole depuis le Japon. Merci, chers AMG, pour tous ces messages magnifiques. Et surtout le dernier, les virtuoses. Et bien, figurez-vous qu'on est presque dans la même situation ici au Japon. On est exactement à Nagoya. capitale industrielle du Japon, ville rutilante, brillante, effervescente, luxueuse. Mais nous avons choisi de rencontrer Egure Sasashima. Egure Sasashima, c'est la diva des précaires. Bonsoir. Et on est, voilà, nous dit, elle vous dit bonsoir, chers amis auditeurs et chers AMG. Egure Sasashima, c'est la diva des précaires. Et nous sommes avec son manager, le poète et syndicaliste, qui s'occupe d'elle. On est dans un endroit absolument à moitié en ruine. Très sympa, très chaleureux. Et cette dame Egure Sasashima, eh bien, elle danse pour les précaires, qui sont de plus en plus nombreux. Elle a bien choisi son créneau, parce que c'est de plus en plus au Japon. Voilà, c'était une histoire de dire que le Japon, c'est pas seulement le Fujiyama, c'est pas seulement les geishas, et c'est pas seulement Toyota, même si on est tout près de chez Toyota, et si on vient d'assister à une soupe populaire, où viennent avec un bol et une paire de baguettes, dîner, essayer de dîner, des licenciés de chez Toyota, mais pas seulement. Egure Sasashima, ce sera la vedette de la série de reportages qu'on vous présentera dans la base si j'y suis, dès notre retour, mais en avant-première mondiale, je vais vous présenter Egure Sasashima dans C'est si bon.
C'est bon. C'est bon, Ocean de l'Osée.
Voilà, c'était Egure Sasashima, et c'est du coup le nez en direct, en exclusivité pour la basse, si j'y suis. Aujourd'hui, vous dites, oh, il s'amuse, il rigole là-bas au fond du Japon, mais pas du tout. Vous avez une heure formidable de la basse, si j'y suis, qui vous attend, qui est là toute chaude. Nous retournons en Italie. Et qu'est-ce qu'on va en Italie ? Eh bien, on va retrouver la Ligue du Nord, l'Italie, le laboratoire du pire. Allez voir que c'est pas sans écho avec ce qui se passe en France et qui se passe aussi d'ailleurs ici même au Japon. Vous allez écouter cette heure en vous disant, reviens, on allait même à la maison. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, avec les baisers affectueux de Egure Sasashima.
Aux amis de Seine-Saint-Denis, venez nous rejoindre au repère de Montreuil-sous-Bois, mercredi 14 avril à 19h, à la Pizzeria Bar, 14 rue du Capitaine Dreyfus, rue piétonne, métro Croix-de-Chavaux.
Attention, nouvelle tempête sur les Deux-Sèvres. Le repère Mermès tiendra désormais au Bistroquet, rue du Rabot à Niort. Prochaine séance, mardi 13 avril à 20h30. Sujet débattu, soumission, docilité, et orange sanguine.
A pensiero sulla lidorate.
Vous, par exemple, vous descendez des Celtes?
Io spero.
Je l'espère.
Et comment le savoir?
Comment faites-vous savoir?
Comment le savoir?
Ben oui, moi j'aimerais bien être sûr.
Diciamo che io mi ritengo uno del nord.
Et je me considère comme quelqu'un du nord.
Et spero di essere di quella.
Et donc j'espère être un descendant des Celtes. Je l'espère, je ne peux pas le savoir.
Mais il y a peut-être, vous avez peut-être un arrière-grand-père tzigane.
Et la dame, il dit, si c'est ça, il est baisé.
Alors, vous voilà tout de vert vêtu avec votre drapeau.
Si, la bandiera de la Padania.
C'est là, donc le drapeau de la Padanie.
Uh-huh. Est-ce qu'il y a un hymne padan?
Si.
Ma pensiero.
Oh, mia patria, si bella e perduta.
Questo è un simbolo.
Ça, c'est un symbole.
È un simbolo molto antico.
Très ancien.
C'est vert sur un fond blanc et c'est la feuille de hachiche, un peu. C'est comme la hachiche.
Non, 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 pas la feuille de hachiche.
Arpador dei fatti di Giva.
devo cantarla tutta.
Oh, anche per tutto il mio, sì.
Ah, ces Italiens, quels artistes, c'est Daniel Mermet, c'est la belle Si j'y suis avec Francesco Giorgini, Italie, le laboratoire du pire.
Flight number 2, arriving from New York.
Bon,
alors là,
on est quand même dans une situation qui est pas mal du tout, hein. On est à Venise. Oh, monsieur perd son parapluie. S'il perd son parapluie, ça va mal se passer, parce qu'il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Venise aujourd'hui. On craint des inondations. Et il fait vraiment froid. Il fait froid. Et il y a du vent. Il pleut, mais c'est très, très beau, c'est gris, il y a des couleurs magnifiques. Les touristes sont très, très déçus. Très, très déçus, évidemment, ceux qui viennent de loin pour passer leur week-end ici sont un petit peu déçus. Et il y en a qui sont là aujourd'hui, et uniquement aujourd'hui, c'est les militants de la Ligue du Nord. Et c'est eux qu'on va rencontrer aujourd'hui. On est venu pour ça, spécialement. Voilà pourquoi on est sous la pluie, par ce froid, à Venise. C'est pour rencontrer les vrais militants de la Ligue du Nord. Là, on s'est mis à l'abri 5 minutes. Et on est...
Sous la rive degli Schiavoni, on regarde la lagune. La vue nous est un peu obstruée par la grande strade où on voit une photo de Umberto Bossi, le leader de la Ligue du Nord, celui qui l'a fondé, le chef incontesté. Et sur le strade, il y a écrit donc très haut, il y a écrit Fratelli sul libero suol, c'est-à-dire frères sulla terre libre. Et un peu plus bas, à côté de l'image de Bossi, Uomini delle colonie padane, prepariamoci. Hommes des colonies padanes, préparons-nous.
Préparons-nous. Voilà. Et alors, Bossi, alors c'est sur fond vert. Il y a un petit côté écolo là-dedans, enfin dans le vert. Et puis, il y a un sigle qui est assez curieux. C'est une sorte de fleur à 6 branches, mais qui ressemble assez à la fleur du haschich. Hein? Ah, bah oui. Ah, bah oui. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec le haschich, bien évidemment. Alors le Bossi en question, il serre le poing. Et il faut que vous compreniez que bientôt ici, là où nous sommes, à Venise, ce sera la Padanie. Ce sera un pays, le nord de l'Italie, qui sera peut-être indépendant, en tous les cas avec une large autonomie, qui s'appelle la Padanie. Je suis sûr que les trois quarts, sinon 90% des auditeurs n'ont jamais entendu parler de la Padanie. Eh bien, c'est ce qu'on va vous faire découvrir. C'est toute une histoire. C'est peut-être la naissance d'une nation, en tous les cas, très certainement la naissance d'une région, en tout cas, une cause qui fait que ces gens se réunissent aujourd'hui sur ces estrades, malgré ce temps de chien. Avouez-le, avouez-le, cette musique vous exalte, cette musique vous gonfle, vous requinque, vous gonflez la poitrine, vous levez le menton, surtout si vous savez que ça se passe à Venise. Venise, vous voyez les palais, la sérénissime, à Venise. Et vous voyez le soleil qui se couche, les derniers rayons sous un ciel tourmenté de peinture. Voilà où nous sommes. Eh ouais, on a besoin de ces grandeurs. On se laisse aisément piéger à ces exaltations formidables. Nous, les rampants, nous, les paillassons, nous, les petits. Nous, les écrasés, nous, les humiliés. Faites-nous de ces musiques, faites-nous de ces décors, faites-nous de ces discours et nous marcherons et nous vous suivrons. Les yeux reconnaissants, la bouche fermée, nous chanterons en chœur avec vous. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche et ça n'est pas rien ce qui se passe dans le nord de l'Italie. Parce que c'est grâce à cette Ligue du Nord de l'ineffable Bossi que Berlusconi est revenu au pouvoir après cette gauche molle, plus que molle, mollassonne, qui a fait mine
de diriger ce pays. C'est grâce à eux. Et qu'est-ce qu'ils veulent, ces Italiens du Nord? Car ils se définissent ainsi, sauf qu'ils ne veulent plus être Italiens. Ils veulent être Padans. Padans, la Padanie. La Padanie est une pure et simple invention. C'est une invention, l'invention d'une région avec ses racines. Et quand je dis racines, il faut entendre race, mais bien sûr, nous sommes des Celtes et non pas des Latins. Ils inventent leur histoire, leurs racines, leur hymne, vous les avez entendus, ça tâtonne, mais ils vont y arriver. Leur langue, il n'y a aucune différence avec l'italien. Mais ils vont bien trouver des langues. Et ça nous amuse, c'est comique, c'est tragique en même temps. Et c'est peut-être le laboratoire du pire. En tout cas, voir sous nos yeux se créer ainsi une différence, c'est quand même extraordinaire. Parce que nous autres Français, nous autres Allemands, Anglais, etc., sommes sûrs d'avoir toujours été là et que tout a toujours été ainsi, que nous avons toujours été ainsi. Depuis la nuit des temps, depuis toujours, depuis les traditions veulent que, etc. Eh bien non, tout ça a été inventé pour des nécessités de l'histoire et ont été inventés dans des moments historiques propices à cela. Eh bien, il se pourrait bien que l'Italie du Nord soit dans cette situation propice. L'Italie du Nord, riche, prospère, ne veut plus payer pour le Sud. Une xénophobie formidable et sans complexe se développe dans cette chère partie de l'Europe, comme elle pourra et elle peut déjà se développer ailleurs. Qui sait si la crise n'entraînera pas ça dans d'autres parties de l'Europe et dans un certain hexagone, car les dépits, les frustrations, les humiliations à venir ne trouveront peut-être pas l'expression politique ni les canaux politiques pour contester et pour s'exprimer dans le champ démocratique. Voilà pourquoi, avec Francesco Giorgini, nous allons nous balader en Italie. Et là, dans le nord de l'Italie, en Padanie, le laboratoire du pire.
Qu'est-ce qu'on roule vite? Eh, ah, ah! Désormais, personne pour nous arrêter. Eh, ah, ah! On est lancé dans la descente. Eh, ah, ah! Et désormais, personne pour nous arrêter. Eh, ah, ah! On va tout droit vers la falaise. Eh, ah, ah! Et personne pour nous arrêter. J'ai parlé avec le chauffeur. Il m'a dit à l'oreille qu'il a les freins cassés, qu'il ne marche plus. Mais il a dit que c'est pas sa faute. En tout cas, il va faire son devoir jusqu'au bout. Et après, on verra. Les autres continuent de faire la chorale. Ils se sont aperçus de rien et ils continuent à chanter. Je voudrais bien prendre à main le volant. Mais bon, tout compte fait. À quoi bon? Mais qu'est-ce qu'on va vite? Ils ne se sont toujours aperçus de rien. Et ils continuent à chanter. Ah ah!
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors on vous voilà tout de vert vêtu avec votre drapeau.
Si, la bandiera della Padania.
C'est là, donc le drapeau de la Padanie.
Questo è un simbolo.
Ça, c'est un symbole.
È un simbolo molto antico.
Très ancien.
C'est vert sur fond blanc. Et c'est la feuille de hachiche, un peu. C'est comme la hachiche.
Non, non, pas la feuille de hachiche.
Ouais, bien sûr.
Non, non, non.
Alors vous êtes partisan de l'indépendance.
De l'autonomie.
De l'autonomie.
Autonomia amministrativa
della amministrativa
rispetto al sistema centrale di Roma.
Par rapport all'état central de Roma.
E adesso è stata approvata dal ministro italiano.
Vient juste d'être approuvé par le conseil des ministres
italiano.
Italien.
Il progetto di autonomia finanziaria.
Le projet d'autonomie fiscale.
Finanziaria fiscale.
Ça veut dire que les riches veulent plus payer pour les pauvres.
No, vogliamo che chi produce la ricchezza prodotta rimanga almeno per la maggior parte a chi l'ha prodotta.
On veut que la richesse produite reste au moins pour la maggior partie dans la région où elle a été produite.
Ah oui, c'est ce que je dis, oui. Alors vous dites je suis italien ou bien je suis padan?
Siamo padano e anche italiano.
No, je suis padan e aussi italiano.
Sto parlando italiano.
E d'ailleurs vous voyez bien. Però, che je parle italien là avec vous.
C'è una differenza se si va a vedere l'altra parte dell'Italia, l'Italia meridionale, ha tradizioni, usi, costumi che sono molto diversi da quelli della Padania.
Se on va voir le reste dell'Italia, notamment l'Italia du Sud, on remarquera che on a des traditions, des usages, des coutumes qui sont très différents della Padania.
Sympathique, non, c'est pas, ce type-là n'est pas une chemise brune, un fasciste. Pas du tout, c'est un brave monsieur, tout à fait sympathique, souriant, avec de l'humour et oui, mais enfin, voilà. Non, indépendance, pensez-vous, autonomie administrative, fédéralisme fiscal, autonomie fiscale, et tout se passe bien, voilà. Il n'y a pas de raison que, c'est pas la question qu'on veut pas payer pour les pauvres, mais il est normal quand même, il est naturel que la richesse produite dans une région reste dans cette région, et profite à cette région, etc. Et ben voilà, on est en route vers, vers une sorte de séparatisme, pas une sorte, un séparatisme qui a d'abord exigé lutter pour l'indépendance et qui maintenant se limite à l'autonomie, mais est en train d'obtenir l'autonomie fiscale. Et l'autonomie fiscale, ça veut dire que, ben voilà, on ne paiera pas nos impôts, resteront pour nous et n'iront pas au Sud. Et puis, il y a des différences culturelles avec le Sud. Vous savez, voilà, vous avez compris, le Nord de l'Italie veut se séparer du Sud. Alors, ça fait plusieurs années que ça dure. C'est parti de rien. Ça a été inventé de toutes pièces. Et ces pièces, ce sont les régions du Nord de l'Italie. Il y a un vieux clivage entre le Nord et le Sud de l'Italie, ça relève de l'histoire de ce pays, de la géopolitique, de la géographie, tout simplement, c'est une vieille histoire, sauf que là, ça prend des proportions particulières. Mais ce qui nous a intéressé avec Francesco et avec Martina, qu'on va rencontrée dans ce reportage, qui est une chercheuse qui a étudié de très près l'histoire de cette Ligue du Nord et de cette Padanie, parce que c'est la Ligue du Nord qui invente littéralement cette nation, on peut dire. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont des gens très sympathiques. D'ailleurs, très souvent, on rencontre dans cette Ligue du Nord des ouvriers, des gens engagés autrefois dans le PCI, dans le Parti communiste italien, puis qui trouvent dans cette Ligue du Nord une suite à leur engagement, à leur histoire, une quête un peu d'identité, de solidarité, de fraternité, de moments comme ça et de fêtes qu'ils n'ont plus, bien évidemment, avec l'effondrement de la gauche italienne, y compris de l'extrême gauche italienne, et qui là trouvent des amis et puis des idées absolument sans aucune espèce de complexe. Bien sûr que les gens du sud de l'Italie ne sont pas les mêmes que nous, bien sûr que les Roms sont des gens différents, d'une autre culture, bien qu'ils restent chez eux, sans parler des Albanais, sans parler des Arabes, qui sont des braves gens, il faut absolument, on va les aider à se développer chez eux, etc. Tout ça est souriant, c'est une xénophobie débonnaire, bonhomme, un racisme sympathique qui se développe, et voilà, et ça se passe au cœur même de l'Europe, ça se passait ce matin-là à Venise. Oh, Venise! Et sur la lagune était dressé un grand, grand stand où les dignitaires de la Ligue du Nord étaient présents, et sur le quai, toute une une cohorte de personnages et de petits stands qui, les uns et les autres, présentaient qui des livres, qui une lutte ou une autre pour une chose ou pour une autre, comme par exemple l'exclusion d'un camp de Rome. Il ne faut pas que ces gens restent là et continuent de salir notre pays, bien évidemment. Voilà où nous en sommes, à Venise, ce matin-là.
Oh, mais il y en a un autre militaire, là. Oh là 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 là, ils ont des décorations partout sur le petit chapeau. Alors, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes le début de l'armée padane?
Non, noi altri, siamo quelli che vogliamo. L'autre monsieur dit presque.
Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez l'indépendance de la Padanie?
Sì, quando tutti quanti hanno visto che la Lega Nord prendeva tanti voti con l'autonomia e il federalismo, sono venuti tutti i federalisti. Allora noi abbiamo detto, sì, voi fateci il federalismo e noi parliamo di secessione, vogliamo la Padania libera, hai capito?
Quando ils ont vu, les autres partis ont vu la masse de vote qu'on a pris dans les élections, comme par enchantement, tout le monde est devenu fédéraliste, les autres partis. Et tout le monde a dit, oui, on va faire le fédéralisme. Ben, alors nous, on relance et on dit, alors on veut la secession.
Quels sont vos adversaires, en fait? J'arrive pas très bien à comprendre.
I nostri avversari è il centralismo romano.
Il nostro avversario c'è il centralismo di Roma.
La parte nord dell'Italia è quella che ha sempre lavorato e dato il 100%.
E noi, nella parte nord dell'Italia, c'è noi che abbiamo toujours travaillé e c'è noi che abbiamo toujours donné 100%.
E mentre la parte del centro-sud è quella sempre che ha avuto tanto assistenzialismo e praticamente con queste cose l'Italia è il paese con il terzo debito più grande al mondo.
E noi on a toujours travaillé et donné 100%, alors que le centro-sud ils ont toujours été désassistés et c'est comme ça qu'on se retrouve avec l'Italie qui est le pays avec le troisième dette publique du monde.
Allora, in ogni parte del mondo,
partout dans le monde, in chaque
dove c'è mondo, gente che lavora,
où il y a des gens
qui travaillent beaucoup per rendere ricca una nazione,
pour
farla crescere
riche e per far grandire una nazione,
non fare bla bla bla, aspettare la manna dal cielo,
sans parler o attendre la manne du ciel.
Ecco, la gente la diventa in linea di massima onesta, democratica e capisce i valori di quello che ha fatto e dove vive.
Les gens si sont comme ça, qui travaillent, qui n'ont pas la tendre la main du ciel, en ligne des principes, ils deviennent des gens honnêtes, démocratiques et qui comprennent les valeurs pour lesquelles ils ont travaillé, pour lesquelles ils se battent.
Mentre coloro che sono sempre assistiti e mantenuti, quelli non capiranno mai niente, non creeranno mai ricchezza, saranno sempre dei parassiti a sostegno della povera gente che lavora.
E allora che ceux qui sont toujours été assistés, ils comprendront jamais rien, ils seront jamais des gens honnêtes et ils seront toujours des parasites, des braves gens qui travaillent.
Dites-moi, les gars, vous êtes alpinistes, vous? Qu'est-ce que c'est le Monte Viso? Parce que sur le côté du stand, là, je vois une montagne couverte de neige qui s'appelle Monte Viso.
Le Monte Viso, c'est là où naît le Po, non?
C'est là où naît le Po.
Il Po, il fiume più lungo d'Italia.
Le fleuve le plus long d'Italie.
È un simbolo.
C'est un symbole.
Di vitalità il Po, dove passa un fiume, dove il Nilo passa in Egitto, c'è.
C'est un symbole de vitalité. Là où un grand fleuve passe, comme le Nil en Égypte, ça amène la vie, ça amène la fertilité.
Allora, ou la Loire en France.
Allora questo è un dono della natura.
Ça, c'est un don de la nature.
E bisogna sfruttare e rispettare.
Il faut l'exploiter, mais le respecter aussi.
Le problème est que les pauvres les mandent en Italie.
Est-ce qu'il y a un hymne padan?
Si. Va pensiero.
Va pensiero de Verdi.
Et ça se chante en italien ou en padan?
En français, en italien, en deutsch,
en allemand.
Et anche en anglais.
Et aussi en anglais.
Per tutti i gusti ce n'è.
On en a pour tous les goûts.
Ah, mais c'est l'international alors.
Oh mia patria, si bella e perduta. Oh mia patria, si grande e fatal. Arpa d'or dei fatidi ci va a ti. Perché lunga andalice pendi le memorie nel petto riagendi. Allora, devo
devo cantare la tuta. Oh, est-ce que j'ai vraiment
la tuta? Bien, c'est bien, les gars. Merci.
Alors.
Daniel.
Dis-moi.
Oui, et mon viso, c'est pas que pour ça. Mon viso, c'est parce que hier, c'est là où Bossy a recueilli l'eau dans une ampoule à la source du Pô. L'ampoule voyage de main en main via les associations des militants léguistes tout le long du Pô et sera déversée à la fin de la manif dans la lagune pour symboliser l'unité de la Padanie. C'est pour ça qu'elle mon viso là.
Ah, voilà pourquoi cette montagne qui m'inquiète un peu dans sa représentation tant elle ressemble au mont Canigou. est quelque chose d'important. Voilà l'idée d'Umberto Bossi, l'ineffable, c'est de montrer l'unité géographique de ce peuple à travers ce fleuve. C'est la création de mythes et de mythologie, mais tout ça dans l'émotion. Et ça marche, l'ampoule de la source a voyagé de main en main, de cellule en cellule, de militant en militant, jusqu'à cet endroit où nous sommes, à Venise, ce matin-là, sur la lagune. Et là, on est avec Martina Avanza, qui est une chercheuse, anthropologue, et qui a longuement travaillé sur cette Ligue du Nord, sur Umberto Bossi, et spécialement sur cette Padanie, nation où nous assistons à la naissance et au développement. Ils sont combien, toi qui as étudié, Martina, qui étudie ce phénomène, les militants de la Padanie sont combien? Tu peux donner des chiffres, un peu une idée?
Il y a les chiffres de la Ligue, mais qui sont les chiffres,
les
de,
chiffres
la Ligue.
De la Ligue.
Donc voilà, on parlait d'environ 100 000 militants, mais
100 000.
Mais c'est les chiffres de la Ligue, mais qui sont pas non plus totalement saugrenus.
Donc là, ils pèsent. Quel est leur poids électoral en Italie maintenant? C'est 8%.
C'est plus de 8%, mais il faut savoir qu'en gros, c'est dans trois régions. Pas dans tout le nord, mais en Lombardie, en Vénétie, en Piémont, surtout en Lombardie, en Vénétie, ça peut dépasser les 20%. Dans certaines parties des préalpes, ça va jusqu'à 40%. Donc c'est très concentré.
D'accord. Quand même, les conversations virent très très vite à la xénophobie. Hein.
Il n'y a pas du tout d'autocensure de la part des militants sur ces sujets. Ils se sentent très légitimes pour parler de ça, parce qu'ils pensent être du côté du bon droit. Ils ne se sentent pas méchants quand ils parlent de ça. Ils pensent que... Et d'ailleurs, ils le spécifient, ils disent « nous, les gens qui travaillent, c'est OK pour nous ». Mais les militants léguistes, ils pensent qu'ils ne sont pas xénophobes.
Ouais, ouais.
Donc, ils ne s'autocensurent pas.
Traduis-moi ce que ça veut dire, ça. Campo nomadi, camp nomade.
Signe pour qu'il n'y ait pas de camp nomade dans ta ville.
Mezzanotte fa, la tomba per piacere, nell'oscurità, ognuno mi può godere, son baci di passione, l'amor non sa tacere, in quelle la canzone, per mille capi neri.
Un passeport pour la Padanie, c'est ce que sera possible un jour lorsque vous irez en amoureux sur les gondoles à Venise. Il faudra peut-être passer une douane et exhiber votre visa pour la Padanie, c'est pas entièrement exclu. C'est à peine caricatural, cette région d'Italie, Lombardie, Vénétie, Piémont, entre autres, est en train de se constituer en, un, en une nouvelle nation, un État nouveau. Alors évidemment, maintenant, on parle beaucoup moins, Umberto Bossi parle moins d'indépendance, c'est vrai, mais parle d'autonomie, notamment d'autonomie fiscale, ce qui évidemment convient tout à fait à cette région plutôt riche de l'Italie, comme traditionnellement le nord de l'Italie est plus riche évidemment que le sud, et ce nord a deux adversaires, le sud, tout le reste du sud de l'Italie, et Rome la voleuse qui veut absolument prendre l'argent de ces honnêtes travailleurs du nord, ceux qui se lèvent tôt, et donner ça à ces grosses feignasses du sud qui ne sont que des parasites. C'est ainsi en tout cas que, tout à fait gaiement, se sentant légitimes, ceux que nous rencontrons ce matin-là s'expriment sans aucune espèce de détour, comme vous l'entendez. Donc on continue cette surprenante promenade qui pourrait peut-être constituer le début d'un laboratoire du pire. Ça, c'est déjà vu. Alors là, c'est les drapeaux, forêt de drapeaux. On a diffusé des musiques qui font gonfler le cœur et qui font relever la tête. Très efficace. C'est un petit peu incohérent pour moi, hein. Est-ce que il peut nous expliquer ce que c'est?
Alors, si tratta che allora il sindaco,
le maire de Venise,
ha autorizzato,
autorisé
a costruire delle abitazioni,
des habitations
per un gruppo di zingari,
pour un groupe de tziganes,
nomadi,
un groupe de tziganes, de nomades.
Ta 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 ta. Fatto sta che molte centinaia di cittadini veneziani,
e il fatto che plusieurs centaines de citoyens vénitiens
non hanno andare a dormire,
non pas de maison, non pas d'habitation, non pas où dormir.
Però il sindaco Cacciari,
ma il maire Cacciari, il maire
costruisce,
costruì
le abitazioni per gli zingari, per i nomadi.
Le abitazioni pas pour les vénitiens, mais pour les ziganes.
E questo allora chiediamo il referendum, perché prima le persone povere, pensionate, che non hanno casa, e poi casomai...
E noi on demande un referendum per arrêter tout ça, e perché on prend en priorité la défense des pauvres, les retraités, e puis après, peut-être, une fois qu'on aura réglé nos pauvres, nos retraités, à ce moment-là, on pourra penser peut-être aux ziganes.
Perché lunga calice pendi.
Ce qui est frappant, c'est que les gens sont tout à fait à l'aise, aucune agressivité.
C'est toujours comme ça dans les manifestations léguistes. Et ce sont des consignes d'ailleurs très très nettes qu'on leur donne. Il ne faut pas qu'il y ait de débordement. C'est totalement reprouvé par le parti. Parce qu'ils veulent justement donner une image de parti populaire, festif, joyeux, et pas d'un parti de droite violente. Ils veulent stratégiquement se distinguer fortement de l'image de la droite radicale. Donc même les gens, ça bouge en mouvement comme ça, spontané. Il n'y a pas de rang, c'est pas militarisé comme dans certaines manifs de l'extrême droite, par exemple.
Et voilà la garde civile, la garde nationale, Padane.
De Padoue.
Alors qu'est-ce que vous faites comme garde nationale, vous, monsieur?
Stiamo facendo la Guardia Nazionale Padana contro l'immigrazione clandestina che c'è a Padova, suddetta Bianelli.
Contro l'immigrazione clandestina a Padova.
Qu'est-ce que vous avez comme problème alors avec cette immigration clandestine?
Quels sont les problèmes avec l'immigration clandestine?
Beaucoup de problèmes. Avec qui? Avec lesquels?
Droga, prostitution, rapine,
prostitution, hold up.
Oh. Comment ça se passe avec les Roms?
C'è l'invasione dei clandestini romeni, Rom, li stiamo mandando a casa.
Il y a une invasion mais des Roms et des Roumains, mais on est en train de les renvoyer chez eux.
Et ceci en toute tranquillité. Il n'y a rien de honteux dans tout ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a des rondes dans un certain nombre de villes du nord de l'Italie. Et ça se passe très bien. Ce n'est pas des rondes de miliciens musclés, etc. Non, c'est tout le monde qui fait la ronde. Les mamies, les papis, les enfants. Contre ce qui menace, c'est-à-dire les autres. C'est-à-dire les étrangers, c'est-à-dire ceux du Sud maintenant, les Italiens du Sud, c'est-à-dire les Roms, etc. On n'en veut pas, on n'en veut pas. On veut rester entre nous, chez nous, et d'abord s'occuper de soi. C'est un avatar, c'est-à-dire une transformation, une métamorphose de plus de l'intolérance, de la xénophobie, etc. Mais qui, bien sûr, à des origines, à des causes et une histoire qu'évoque Martina.
Est-ce que tu peux me faire l'historique de départ? Ça commence comment cette histoire?
Alors, la Ligue Lombarde, d'abord, est née au début des années 80, en fait, dans la continuité d'autres mouvements régionalistes, donc notamment Val d'Aoste, en Vénétie, qui étaient plus développés, justement, parce que ces régions-là avaient des identités régionales plus fortes. La Lombardie, c'est celle qui était le plus mal armée dans cette entreprise-là. Et puis, paradoxalement, les autres se sont cassés la gueule. Et Umberto Bossi, qui était donc vraiment, ça paraissait désespéré comme entreprise, parce que la Lombardie n'a jamais eu de dialecte unifié, d'histoire unifiée, etc. Et bien c'est lui qui est devenu le chef et qui du coup a fédéré tous les autres mouvements, a acheté les droits sur leur drapeau.
Acheté les droits sur le drapeau.
Sur les drapeaux des autres.
Ah.
Et il les a complètement annexés. Et donc du coup, c'est lui qui centralise tout le mouvement. Donc il a été élu pour la première fois sénateur en 87, c'était un illustre inconnu. Et depuis, c'est lui... C'est un parti ultra centralisé et il y a eu des purges très violentes, c'est-à-dire dès qu'il y avait des gens qui pouvaient le concurrencer, ils étaient expulsés de manière très violente avec des accusations très lourdes, des congrès houleux, des gens étaient foutus dehors en les poussant, enfin bref, toute une mise en scène de l'expulsion. Et les seuls qui ont résisté, c'est un petit cercle d'intimes
de Bossi,
dont Roberto Maroni, qui est son copain de toujours, qui est ministre de l'Intérieur aujourd'hui, qui sont lombards et donc qui tiennent le parti depuis dès lors de manière très très centralisée. Ils ont eu leur premier grand succès électoral en 92. Ils ont envoyé 80 parlementaires à Rome. Ensuite, ils se sont alliés avec Berlusconi en 94. Ils ont été au gouvernement. Mais le gouvernement a duré 6 mois parce que la Ligue a enlevé le soutien à Berlusconi. Après, c'était la grande haine entre Berlusconi et la Ligue. Et c'est là qu'elle a déclaré la sécession. Et à partir de là, on a commencé à parler de Padani, on a commencé à inventer tous ces symboles identitaires, l'hymne national et tous ces trucs-là qui avant n'existaient pas du tout, jusqu'en 96. De 96 à 99, ils ont été dans un isolement total, ils se sont complètement repliés sur cette histoire de Padani. C'est là où ils ont ouvert les associations, ils ont mis en place toute cette machine culturelle, ils ont sorti les Celtes, etc., etc. Après, bon, bah, c'était pas tenable parce que la loi électorale fait que si t'as pas d'allié, t'es vraiment exclu du pouvoir. Donc, ils se sont re-alliés avec Berlusconi en 2001. Ils ont tenu 5 ans au gouvernement Berlusconi, mais par contre, ils étaient très très faibles cette fois-ci. Ils étaient vraiment minoritaires dans la coalition, donc ils ont un peu fermé leur gueule. Et d'ailleurs, ils ont perdu beaucoup de militants parce que les militants léguistes, il faut savoir qu'ils détestent Berlusconi. Pour eux, c'est vraiment le mec riche de la ville, qui est proche des milieux des affaires louches, qui n'est pas du tout le travailleur padan, brave et honnête. Donc c'est pas du tout la même droite quoi, dont on parle. Et maintenant, ils sont revenus au gouvernement en 2008. Mais là, par contre, c'est eux qui ont repiqué des voix à Berlusconi. Donc le flux s'est inversé en 2008 de manière très importante dans le Nord. Et du coup, maintenant, la Ligue est en position de force pour négocier plein de choses à Rome.
Et fini, là, on ne parle pas du tout de fini là-dedans.
Bah, en fait, Berlusconi, puisque la gauche en 2008 a décidé de s'unir dans le Parti démocrate, la droite, en gros, a voulu faire pareil en disant mais nous aussi, on est capable de, pour le bien du pays, il faut diminuer le nombre de partis, il faut s'unir, il faut faire un vrai parti de droite. Donc Berlusconi a réussi à persuader Fini à rentrer dans ce nouveau truc qui est le parti, le PDL. Là. Et la Ligue a été la seule à dire moi, je ne rentre pas. Enfin non, les catholiques ont aussi dit « je ne rentre pas » et du coup ils ont été expulsés de la coalition. Donc ils sont présentés tout seuls, ils ont tout perdu. Alors que la Ligue est la seule qui a réussi à négocier un accord d'alliance, mais pas d'annexion. Et elle se retrouve maintenant avec quand même un poids de chantage très fort et elle a gardé son identité. ce que Fini a perdu.
Fino a l'indipendenza!
Jusqu'à l'indépendance. Mais comment en est-on arrivé là? Comment l'idée d'une sécession du Nord, même si elle ne se réalise jamais concrètement, a-t-elle pu naître et prospérer au point d'en arriver à cette déclaration d'indépendance de dimanche?
Antenne 2.
La crise? Non. Au contraire, l'opulence.
14 septembre 1996.
Le nord de l'Italie, le nord-est tout particulièrement, est devenu la région la plus riche d'Europe. Plus que le Bade-Württemberg ou l'Île-de-France. Une richesse faite de grands groupes comme Fiat, mais aussi et surtout de millions de petites et moyennes entreprises. Dans certaines régions, une pour cinq habitants, où l'on travaille dur, pas de chômage ici, et où l'on exporte beaucoup. C'est le discours martelé par Bossi. Le Nord produit, Rome vole, donne un Sud mafieux, et le Nord laborieux ne reçoit rien en retour.
Ah, là, on est chez les intellos, hein. Bonjour.
Bonjour.
Vous parlez français, non?
Petit peu.
Non. On va. On va traduire. Là.
Faccio io.
Ciao, carissimo. Dove è?
Ah, ça, c'est les Valkyries. Ouais, Bossi fait souvent Wagner. Son entrée avec ça.
Ah, là.
Et Carmina Burana.
Ça, c'est pour Bossi.
Oui, et Carmina Burana.
Andrea, que j'ai rencontré il y a longtemps, il a fondé une association.
Terra Insubre.
Terra Insubre, qui s'occupe de l'histoire de la Lombardie du Nord, c'est ça? Et notamment de valoriser le passé celtique de la Lombardie.
Oui. Parce que la Padanie était celte.
La Padania è stata anche celtica.
La Padania è stata anche celtica.
Milano è stata fondata dai Galli Insubri e moltissime città della Padania sono state fondate dai Celti.
Milano è stata fondata per un tribù di Gaulois.
Insubri.
Insubri e molte ville del nord dell'Italia sono state fondate dai Celti.
Bologna, per esempio.
Bologna, per esempio.
È stata fondata dai Galli Boi.
È stata fondata per un'altra tribù di Gaulois, che sono le Gaulois della tribù dei Boi.
Ma in realtà la Padania, come le regioni della Francia, è un incrocio di latini, celti e germani.
Ma in realtà la Padania, come molte regioni della Francia, è un croisement entre latin, celt e allemand, germano, saxon.
Infatti i nostri dialetti padani, sono chiamati dai linguisti dialetti gallo-italici o gallo-francesi.
Nos dialectes de la Padanie sont appelés par les linguistes des dialectes gallo-italiques.
Et là, on retrouve tous les mythes, mythologies, références historiques ou pseudo-historiques qui servent à tout un mouvement déjà ancien à travers l'Europe, qui est les mouvements occident, c'est cette croix celte, et à laquelle se réfèrent tous ces mouvements de droite, d'extrême droite, à base de terroir et de race, qui ne cessent de hanter. C'est un autre spectre, ce sont d'autres spectres qui hante l'Europe et qui redresse la tête dans cette si comique et si inquiétante Padanie.
Et moi j'étais frappé là en parlant avec les messieurs, une certaine xénophobie dans leurs propos.
Secondo me, questa idea della xenofobia eccetera è vecchia perché il politicamente corretto sta per essere spazzato via dall'Europa.
Cette idée de la xénophobie est vieille et est liée au politiquement correct qui est en train d'être balayé. In Europa.
Io ormai tutti hanno capito, tutti.
E ormai tutto il mondo ha compreso, tutto il mondo.
Che l'Europa o comincia a tutelarsi,
che l'Europa soit commence a se sauvegarder,
o è destinata all'annientamento.
O elle est destinée à être anéantie.
Ora, siccome noi, come lombardi, come veneti, come europei, non abbiamo nessuna intenzione di sparire dal mondo.
E come noi, in tant que lombard, venetien, européen, on n'a aucune intention de se nous faire balayer, d'être effacé du monde.
È evidente che la gente si sta capendo che l'idea dell'immigrazione, razzismo, eccetera, sono state soltanto parole d'ordine per imporre un'immigrazione folle e insensata.
tout le monde commence à comprendre que ces notions d'immigration et cette notion de racisme n'étaient que des instruments pour imposer une immigration folle et insensée.
Il tema non è il razzismo. Il razzista è qualcuno che odia qualcun altro per un'altra razza. Noi siamo esattamente il contrario.
Le racisme, c'est quelqu'un qui haït quelqu'un d'autre parce qu'il est d'une autre race.
Noi vogliamo
c'est
che
esattamente il contrario.
Noi vogliamo che la nostra identità sia preservata, come
siamo
preservati.
Che la nostra identità sia preservata.
Come tutte le identità di tutti i popoli.
Come tutte le identità di tutti i popoli.
E i razzisti sono quelli che vogliono distruggere l'identità e creare un mondo McDonald's unico e mondiale dove tutti parlano la stessa lingua, non esiste più nessuna razza. Identità, non esiste più nessuna differenza culturale.
E les vrais racistes sont ceux qui veulent un monde globalisé, McDonaldisé, et où il n'y a plus d'identité culturelle, il n'y a plus de singularité culturelle.
Ok, merci.
Ciao, grazie, bella, buon lavoro. Grazie. Buon
travail. Alors, ça c'est Andrea, il est avocat dans un grand cabinet, donc si tu veux, ça c'est la version Classe sup, tout à l'heure tu as eu la version classe populaire, mais tu vois bien que le discours est le même, et c'est ça, quand je te parlais d'idéologie différentialiste, c'est ça, c'est-à-dire, c'est pas de dire nous on est supériorité blanche ou des choses comme ça, c'est toujours un discours culturaliste de dire eux ils ont leur culture, nous on respecte mais chez eux, et nous il faut respecter la nôtre chez nous. Oui, et c'est comme ça qu'ils ne se sentent pas racistes justement.
Oui, c'est la définition de l'apartheid. La définition de l'apartheid c'est le développement séparé des races. Alors maintenant on dit plus race.
On dit culture.
On dit culture, mais c'est le développement séparé des cultures.
Ils leur donnent leur bonne conscience, c'est-à-dire pour eux, ils sont profondément convaincus qu'ils ne sont pas racistes parce qu'ils disent voilà, nous on respecte les autres cultures mais chez eux. Et justement, pour que les cultures se maintiennent, il faut que chacun reste chez eux. Donc ça, c'est la version culturellement fournie. Et l'autre, c'était la version sans référence, mais c'est la même.
Africa.
Africa.
Annibale,
grand général noir. Avec une armée d'éléphants, tu traversas les Alpes et tu t'en sortis indemne. À cette époque, les Européens n'arrivaient même pas à les traverser à pied. Mais toi, Annibale, grand général noir, tu les as traversés avec une vague d'éléphants.
Lo sapete quanto sono grandi e grossi e lenti gli elefanti.
Savez-vous comme ils sont grands et gros et longs, les éléphants? Et pourtant, Annibale leur a fait traverser les Alpes avec 90 000 hommes africains. Annibale a défait les Romains et resta un Italien maître pour 15 ou 20 ans. Voilà pourquoi beaucoup d'Italiens ont la peau mate. Voilà pourquoi beaucoup d'Italiens ont les cheveux sombres. Voilà pourquoi beaucoup d'Italiens ont les cheveux sombres et les yeux sombres. Un peu du sang d'Annibale est resté à tout le monde dans les veines. Personne ne peut dire que je raconte des mensonges. Personne ne peut dire que je raconte des mensonges. Si tu connais ton histoire, tu sais d'où vient la couleur du sang qui te coule dans les veines. Si tu connais ton histoire, tu sais d'où vient la couleur du sang qui te coule dans les veines. Voilà pourquoi nous sommes fils d'Annibale. On est tous fils d'Annibale. Cheveux noirs, fils d'Annibale. La pommade, fils d'Annibale. Avec les yeux noirs. Avec les yeux noirs.
Africa.
Un reportage avec Francesco Giorgini, première diffusion le 1er décembre 2008. Merci à Martina Avanza, Andrea Macchetti, Andrea Rognoni et Roberto Fiorentini, ainsi qu'à Giancarlo Gentilini, Miss Sole et Alpi et aux chasseurs alpins. D'autre part, vous le savez déjà, Noam Chomsky sera à Paris le samedi 29 mai pour une conférence avec le monde diplomatique. Ce sera à la Mutualité à 16h. Il reste encore quelques places. Pour réserver la vôtre, rendez-vous sur le site du journal www.monde.fr. france-diplomatique.fr. Mais vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, à la technique aujourd'hui, Mathias Aléon et Thibaut Deschamps, réalisation Goyen Nguyen et Raphaël Moutarde, assistante Agnès Lebot, chef du répondeur Céline Rouzet. Le numéro du répondeur de Là-bas, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Tunella, un mot sur la sécurité dans les tunnels?
En cas d'incendie, je quitte mon véhicule et je rejoins les issues de secours.
Celles qui sont signalées en vert, c'est ça?
Oui, n'oubliez pas, c'est ce qui peut vous sauver la vie.
Tunnel d'Île-de-France, la sécurité gagne du terrain. Toute l'info en temps réel sur citadin.fr. Ceci est un message de la DIRIF, Direction des routes d'Île-de-France.
De plus en plus de gagnants l'auto le lundi, je vous écoute.
Oui, Robinson Crusoe à l'appareil.
Bonjour Monsieur Crusoe.
Oui, bonjour, je vous appelle de mon île parce que je suis bien embêté avec votre jackpot du lundi. Là.
Ah
et
oui.
Je suis pas mal avec ceux du mercredi. Du samedi d'ailleurs.
Oui, que puis-je faire pour vous?
Pourriez-vous faire un échange?
Un échange?
Oui, il s'agirait d'échanger mon vendredi,
oui.
Un vendredi très sympa et en pleine forme, contre un lundi, quel qu'il soit. Ah. Je ne serai pas regardant.
Loto, la chance appartient à tout le monde.
Parce que le vendredi, il n'y a pas de jackpot loto.
FDJ. Bonjour, c'est Miss Maf. Juste pour vous dire que chez Maf, la famille, c'est sacré. Et pour vous le prouver, nous avons pensé à des solutions assurance santé efficaces et moins chères pour toutes les familles. En ce moment, nous proposons même jusqu'à 160 euros de réduction sur votre première cotisation santé. Bien sûr, cette offre est valable pour les particuliers et leurs familles, comme pour tous les professionnels. Voilà, c'est dit.
Pour votre assurance santé, la référence qualité-prix,
c'est la Maf.
Offre valable jusqu'au 31 mai 2010. Conditions au 0800 130 131. Appel gratuit depuis un poste fixe, surcoût selon opérateur.
À suivre, Carrefour de l'Odéon. Vous écoutez France Inter, il est 16h. Vous retrouvez Dominique Delaroy pour les informations.
Les talibans afghans menacent de tuer les otages français et leurs trois assistants. Les deux journalistes de France 3 ont été enlevés le 30 décembre en Afghanistan, il y a plus de 100 jours. Une nouvelle vidéo a été envoyée hier à plusieurs médias occidentaux à Kaboul, filmée par leurs ravisseurs. Ils apparaissent amaigris, mais apparemment en bonne santé, et lisent un texte demandant à Nicolas Sarkozy de satisfaire les exigences des talibans, la libération de prisonniers en échange de leur remise en liberté, sinon la vie des Français sera en danger. Xintia, les familles ne se réinstalleront pas en zone noire, rappel à l'ordre de Nicolas Sarkozy, qui a demandé à François Fillon de réunir rapidement les ministres concernés pour s'en assurer. Hier, Dominique Bussereau, président du Conseil général de Charente-Maritime et secrétaire d'État aux Transports, ainsi que Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, s'étaient pourtant exprimés en faveur d'aménagement de ces zones noires délimitées par l'État. Je pense qu'il y a de ci, de là, des aménagements de bon sens, humains et intelligents qui peuvent être réalisés, a dit Dominique Bussereau. Son collègue de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a lui aussi estimé qu'il peut exister des situations individuelles précises, ponctuelles, qui nécessitent un examen approfondi. Poursuite de la grève à la SNCF, au sixième jour, toujours pas de dialogue entre les syndicats et la direction. Cette dernière veut bien ouvrir des négociations la semaine prochaine ou avant, si le mouvement cesse. Les deux syndicats CGT et Sudrail ne veulent pas en entendre parler. Ils veulent des négociations tout de suite. Le trafic, lui, reste perturbé, en particulier en Île-de-France et sur les réseaux régionaux. La Pologne souhaite organiser les funérailles du président Lech Kaczynski samedi prochain. En fait, la décision définitive dépend de la date du retour en Pologne des corps des 96 victimes de l'accident. La dépouille du président Kaczynski a été rapatriée à Varsovie hier. Celle de son épouse devrait l'être demain. Par ailleurs, le procureur général de Pologne dément les rumeurs selon lesquelles les pilotes auraient subi des pressions pour atterrir malgré le mauvais temps, afin que la délégation officielle arrive à temps pour les cérémonies de commémoration à Katyn. Les marchés financiers ont salué avec prudence l'accord entre les pays de la zone euro sur l'aide à la Grèce, avec 30 milliards d'euros de crédit à disposition. La nouvelle a permis de faire baisser le coût des emprunts grecs et a dopé les valeurs bancaires à la bourse d'Athènes. L'euro a lui aussi bénéficié de cette annonce. Il est monté ce matin jusqu'à 1,36$, son meilleur niveau depuis la mi-mars. Julien Beneteau se qualifie pour le deuxième tour du tournoi de Monte-Carlo. Il a battu l'Ukrainien Oleksandr Dolgopolov 6-4, 5-7, 6-2, mais après avoir bataillé 2h30, Jérémy Chardy, lui, n'ira pas plus loin. Il s'est incliné 6-2, 7-6 face au Kazakh Andrei Golubev.
Les
Les questions du mercredi. Une émission de France Inter et du journal Le Monde, avec Dailymotion, tous les mercredis à 19h20. Jean-François Aquili.
Notre invité ce mercredi est Dominique de Villepin, ancien Premier ministre. Nous évoquerons avec lui la réforme des retraites, 2012, mais aussi les banlieues oubliées de la République. Et pour en débattre, nous aurons un deuxième invité, le rappeur et poète Abdel Malik. Rendez-vous avec Dominique de Villepin dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, mercredi à 19h20.
France Inter présente Françoise Hardy. La pluie sans parapluie.
La peine vaudrait bien le prix de ce dernier détour. Tant pis pour tous les non-dits, les appels au secours. Noir sur blanc.
Retrouvez Françoise Hardy et ses nouveaux titres dans le programme musical de France Inter. France Inter et le Théâtre de la Ville présentent du 14 au 17 avril deux œuvres de la chorégraphe américaine Lucinda Childs, interprétées par les danseurs du ballet de l'Opéra National du Rhin. Dance, une pièce pour 17 danseurs, et Songs from Before, une création pour 12 danseurs. Retrouvez Lucinda Childs dans les émissions de France Inter. France Inter. France Inter.
La différence.
Il est 16h04, passé de 30 secondes tout de suite, le carrefour de l'Odéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Le grand Jean-Sébastien Bach, l'homme des cantates, des passions, de la musique religieuse, jouait parfois, ou dirigeait, dans un café ou devant un café. Ça paraît bizarre, mais oui, il avait ses moments profanes, et au café de Zimmermann, on donnait des œuvres, des concertos avec des jeunes, des étudiants, ou ses fils, parfois. Voici un exemple de ces pièces divertissantes qu'on pouvait apprécier en fumant la pipe ou en buvant ce précieux breuvage nouvellement arrivé, le café Allegro assai du concerto pour violon en la mineur de Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
Le final, Allegro assai, très rapide du concerto pour violon en la mineur de Jean-Sébastien Bach, interprété par le Café de Zimmermann, le bien nommé, oui. C'est là que Bach jouait ses musiques instrumentales et le violon solo et concertmeister, le meneur en quelque sorte, c'était Pablo Valetti. Voici un grand admirateur de Jean-Sébastien Bach, Félix Mendelssohn, lui qui a ressuscité un peu l'œuvre du maître et puis qui a suivi une voie un peu différente. Bien sûr, il a écrit pour le clavier aussi, il a écrit des oratorios, des œuvres de style religieux. Mais enfin bon, c'était une autre époque et un style charmant, plus doux certainement, et peut-être un petit peu plus mondain. Voici une étude en fa majeur qui date de 1834, écrite par Félix Mendelssohn.